tous. Et c'est pour, en effet, cette rencontre traditionnelle maintenant que je suis là ce soir et donc pour traiter avec vous de cette question, le Maranatha, le Seigneur vient. Nous ferons plusieurs lectures, si vous le voulez, dans la parole du Seigneur. Et au chapitre 7, d'abord, du livre du prophète Daniel, nous lisons au verset 13. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les nuées du ciel avança comme un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté ne sera jamais détruite. » Un deuxième texte dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 16 et au verset 22. « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, maranatha. » Un autre texte encore, dans cette fois-ci le livre de l'Apocalypse, verset 7, chapitre 1er. « Voici, il vient avec les nuées. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Et enfin, au chapitre 22 de ce même livre de l'Apocalypse, au verset 17, « L'esprit et l'épouse disent « Viens », que celui qui entend dise « Viens », que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Verset 20, « Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. » Amen, viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. » La foi d'Israël est basée sur deux certitudes. La première, c'est que Dieu est intervenu autrefois pour libérer son peuple du pays d'Égypte. Et dans la foi juive, il n'y a pas un seul jour où on ne bénisse Dieu pour cette grande délivrance, selon ce qui est écrit dans le chapitre 12 du livre de l'Exode, « Tu te souviendras de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. » Et il y a une vieille prière juive qui dit ceci, « Ce n'est pas seulement mes pères qui sont sortis d'Égypte autrefois, mais moi et mes pères, aujourd'hui, nous sortons d'Égypte. Car si Dieu n'avait pas fait sortir nos pères d'Égypte autrefois, moi et mes enfants, aujourd'hui encore, nous serions esclaves du Pharaon en Égypte. » Et il ne se passe pas de fait d'occasion où aussi on ne bénisse Dieu pour ce grand miracle qu'a été la sortie d'Égypte. Mais si on se souvient de cet événement, qui est un événement du passé, c'est pour se dire que si Dieu autrefois a libéré son peuple de l'esclavage de l'Égypte, il est encore capable de le faire aujourd'hui. Et dans le Décalogue, la première des 10 paroles commence de la manière suivante, « Je suis l'Éternel ton Dieu ». Alors en hébreu, ça se dit « Asher otseticha miret mitzraim ou miret avadim » ou « Mebet avadim », pardon. Ça veut dire « Je suis l'Éternel ton Dieu ». Alors on traduit « qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte et de la maison des esclaves ». Mais en hébreu biblique, le temps n'existe pas. Il n'y a pas de passé, de présent ni de futur. On traduit par un passé, un présent et un futur selon le contexte. Si bien que là, évidemment, il semblerait que ce qui s'impose, c'est le passé. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Mais les rabbins nous disent que l'on peut aussi traduire de la manière suivante. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte. Puisqu'il est écrit, tu te souviendras de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie, et que l'on est conscient que c'est tous les jours que Dieu renouvelle ce miracle. Ça veut dire que tous les jours, Dieu est celui qui vient pour nous libérer de toutes les formes d'esclavage qui peuvent être les nôtres. Dieu aujourd'hui renouvelle ce qu'il a fait dans le passé. Et puis enfin, il y a cette certitude que ce que Dieu a fait dans le passé, ce qu'il fait dans le présent, il le fera dans le futur. Il y a un deuxième exode qui s'accomplira au temps de la fin. Et ce thème du deuxième exode, qui est très courant dans le judaïsme, passe souvent inaperçu dans le milieu chrétien. Mais tous les prophètes, Jésus et le livre de l'Apocalypse, sont orientés autour de ce thème du deuxième exode. Il y aura au temps de la fin une deuxième libération de toutes les formes d'esclavage auxquelles le peuple d'Israël et l'humanité tout entière peuvent être soumis. Il y aura un deuxième libérateur, un deuxième Moïse, le Messie. Il y aura aussi une dernière oppression, un deuxième pharaon, que l'on appelle en hébreu Aracha, ce que nous appelons dans notre vocabulaire chrétien l'Antichrist. Et il y aura une ultime rédemption qui marquera le départ pour une nouvelle terre promise, la nouvelle Jérusalem, le ciel nouveau et la terre nouvelle où la justice habitera. Et c'est vers cette espérance que le peuple d'Israël est tendu, cette venue du Seigneur dans ce que l'on appelle le dernier jour, ou encore que les prophètes ont appelé le jour de l'Éternel. Alors ça, c'est une notion qu'il nous faut aussi comprendre. Bien sûr, ça n'est pas un jour de 24 heures. Jour ici est à prendre dans le sens d'un temps de l'intervention de Dieu. Cette expression, elle est souvent aussi en relation avec un autre thème qu'on trouve par exemple dans le livre des Juges, les guerres de l'Éternel. Et il y avait à l'époque biblique un ouvrage auquel il est fait allusion, mais que nous ne possédons plus, qu'on appelle le livre des guerres de l'Éternel. Souvent, le Seigneur est désigné par l'Éternel des armées. Éternel des armées, ça veut dire à la fois le chef des armées d'Israël, mais aussi et surtout le chef des armées angéliques. Et cette expression, les guerres de l'Éternel, que par exemple des juges ou des rois sont appelés à mener, eh bien, elle manifeste justement le Seigneur qui, comme le dira un autre texte, c'est pas très cachère, comme on dirait en hébreu, dans notre langage moderne, mais comme le dit un psaume, l'Éternel est un homme de guerre. Ça veut dire que Dieu est un guerrier qui s'oppose à tout ce qui est contraire à sa nature, qui est contraire à sa volonté. Et le psaume 110 nous dit, entre autres, qu'un jour viendra où le Seigneur mettra tous ses ennemis sous ses pieds. Et c'est dans ce sens-là qu'il est question précisément de ce jour de l'Éternel et de ces guerres de l'Éternel. Et ça veut dire que depuis le septième jour de la création, le sixième jour plus exactement, la fin du sixième jour, comme le dit le texte biblique, Dieu est entré dans son repos, dans son Shabbat. Est-ce à dire que Dieu était épuisé par le travail qu'il avait accompli pendant les six premiers jours de la semaine? Bien sûr que non. Le psaume 120 nous dit qu'il ne se fatigue ni ne dort. Mais ça veut dire que Dieu rentre, non pas, le mot Shabbat n'est pas à traduire par le repos, comme on le fait d'habitude, mais Shabbat vient d'une racine lishbot, qui signifie tout simplement cesser. Dieu cesse d'agir. Dieu cesse de travailler. Et plutôt que de dire que Dieu se retire dans son repos, Dieu se retire dans l'inaction. Pourquoi ? Pour laisser place à l'homme. l'homme qui doit être son lieutenant et auquel il a donné un commandement, dominer sur la terre et sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer et sur les bêtes des champs. Par conséquent, pour laisser place libre à l'homme, pour permettre à l'homme de manifester cette liberté que Dieu lui a donnée, Dieu se retire dans une inaction. Inaction dont il ne sort que dans deux occasions. La première, quand l'homme a fait tellement de bêtises que si Dieu laissait aller les choses, eh bien, ça pourrait se terminer en catastrophe. Alors Dieu sort ponctuellement de son inaction, de son repos, de son Shabbat, pour rectifier le tir. Et puis, la deuxième occasion, c'est lorsque son peuple crie vers lui. Et là, Dieu intervient, et c'est ce que nous appelons le miracle. C'est une intervention ponctuelle de Dieu dans l'histoire des hommes. Mais la Bible nous enseigne, et les prophètes, c'est leur thème essentiel, que loin d'aller en s'améliorant, l'humanité, comme le dira l'apôtre Pierre, avancera de plus en plus dans le mal. Et un jour viendra où la situation sera tellement dramatique que si Dieu n'intervenait pas, eh bien ce serait tout simplement la fin de l'humanité et la fin du monde. Voyez-vous, cette idée de la fin du monde apocalyptique, catastrophique, n'est pas une notion biblique. La Bible ne nous enseigne pas la fin du monde. La Bible nous enseigne la fin d'une histoire humaine que Dieu va reprendre en main pour accomplir sa volonté. Et ce moment où Dieu va sortir de son Shabbat pour rétablir les choses selon sa volonté parfaite, les prophètes l'appellent le jour de l'Éternel. Ce jour qui sera en même temps ce que les théologiens appellent une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de la gloire de Dieu. Il y a dans la Bible un certain nombre de théophanies. La plus célèbre, la plus importante, c'est lorsque Dieu se révèle au peuple d'Israël sur la montagne du Sinaï dans un grandiose spectacle de feu, d'éclairs, de tonnerre, de son du chauffard, une voix qui retentit, etc. C'est Dieu qui vient vers l'homme. Et quand Dieu vient vers l'homme, quand Dieu vient vers sa création, l'homme pécheur est effrayé. Et quand Dieu vient, eh bien, c'est pour deux choses. Pour juger les méchants et pour consoler les justes. Et c'est un temps où la grâce de Dieu, la patience de Dieu est à son terme. Dieu est patient, infiniment patient. Il est bon. Et Jésus rappellera que cette bonté de Dieu, elle se manifeste par le fait, notamment, que Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et pendant tout ce temps de la grâce de Dieu, ce temps de la patience de Dieu, eh bien, Dieu accueille indifféremment le juste et le pécheur. Et on pourrait dire qu'à la limite, il n'y a aucune différence entre l'accueil que Dieu fait au juste et qu'il fait au pécheur. Et vous avez de très nombreuses paraboles qui nous disent ça. Je pense par exemple à la parabole du bon grain et de l'ivraie. Je pense à la parabole du filet, où il nous est dit que ce filet qui est jeté dans la mer ramène toutes sortes de poissons, des bons et des mauvais. Mais il y a un temps où cette patience de Dieu prend fin. Et il y a un temps où se fait le grand tri. Tri, en grec, se dit crisis, qu'a donné en français le mot crise. Et crisis se traduit effectivement par tri, partage, mais aussi jugement. Et dans cette parabole du filet, par exemple, il nous est dit que lorsque le temps est accompli, eh bien, les pêcheurs tirent le filet sur le bord de la mer et ils font le tri des poissons. Les poissons cachères, les poissons qui sont conformes aux prescriptions du Lévitique sont conservées, les autres sont rejetées. Et il nous est dit qu'au temps de la fin, les anges accompliront ce grand tri. C'est aussi la même chose avec la parabole de l'ivraie dont je parlais tout à l'heure, l'ivraie et le bon grain. Cet ivraie et ce bon grain, juste et méchant, qui croissent ensemble jusqu'au temps justement où vient la moisson. Et la moisson est le temps du tri. Les anges séparons à ce moment-là le bon grain et l'ivraie. Jean-Baptiste avait donné une parabole du même genre quand il disait que le Messie a son van à la main, il nettoiera son air, il engrangera le blé dans les greniers, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Et c'est pourquoi le jour de l'Éternel est un jour redoutable, un jour où il vaudra mieux ne pas se trouver sur sa route, en travers de sa route, parce que ce jour-là, eh bien, tout ce qui se mettra en travers du règne de Dieu, de la souveraineté de Dieu, sera impitoyablement balayé. Et les prophètes ont mis en garde, justement, sur ce temps, et notamment sur la nécessité de se trouver dans une situation telle, dans ce jour-là, pour que nous échappions, justement, à ce jugement qui viendra, merci, au temps de la fin. Maintenant, je voudrais, après avoir fait cette introduction, venir sur un texte qui est extrêmement important, que nous avons lu dans le livre du prophète Daniel, où il est question aussi justement du Dieu qui vient. Et notamment cette vision du chapitre 7, sur laquelle il faudrait nous arrêter très longtemps. La vision du chapitre 7 est à mettre en parallèle avec celle du chapitre 2 de Daniel, c'est-à-dire la vision de la grande statue, composé de 4 métaux, or, argent, bronze et fer et argile, donc que le roi Nebuchadnezzar a vu dans son rêve. Et il y a donc, selon ces deux visions, une succession de 4 empires qui doivent subsister et dominer sur le peuple d'Israël jusqu'au temps de la fin. 3 de ces empires sont identifiés par le texte biblique lui-même. Le premier, c'est l'Empire babylonien. Le deuxième, c'est l'Empire médo-perse. Le troisième, c'est l'Empire grec. Quant au quatrième, il n'est pas nommé, pour une bonne et simple raison. C'est qu'à l'époque des prophètes, ce quatrième empire n'existait pas. Et dans la vision de chapitre 7 de Daniel, ce quatrième empire est représenté par une bête abominable. Bon, les autres empires aussi sont représentés par des bêtes féroces, un lion, un ours, un léopard. Et pour le prophète, c'est une manière de nous dire que tous ces empires humains ont quelque chose en commun. C'est que ce sont des empires bestiaux, féroces, qui n'ont pas de cœur, qui n'ont pas d'âme, qui ne se soucie pas des petits et des pauvres. Toute allusion à des événements actuels serait évidemment tout à fait hors de propos. Et voyez-vous, tout pouvoir humain, comme l'ont dit certains, tout pouvoir corrompt, mais le pouvoir absolu corrompt absolument. Eh bien, c'est une manière aussi d'exprimer cette vérité que nous trouvons dans cette prophétie et cette vision des 4 animaux. Donc des empires bestiaux. Et le quatrième, alors, c'est le pire de tous. C'est une bête fantastique qui n'existe pas sur la terre. Elle a 7 têtes, elle a 10 cornes, etc. Bon, on n'a jamais vu de bête comme ça, heureusement. Mais, disons, elle met le comble au péché. Et vient un moment où cette révolte contre Dieu qui l'amène à proférer contre Dieu des blasphèmes inouïs, nous dit le texte de Daniel, eh bien, devient insupportable. La patience de Dieu est grande, mais elle a des limites. Et vient un moment où Dieu ne supporte plus, non seulement parce que sa gloire est atteinte dans ce qu'elle a de plus profond, mais aussi parce que cette bête met en danger l'avenir de l'humanité tout entière. Et dans le ciel, où il y a un temple céleste, nous aurons l'occasion d'en reparler demain. Le temple, c'est un endroit de culte, bien sûr, mais c'est aussi un tribunal. Et à l'époque où le temple existait, ça faisait office de ce qu'on appellerait aujourd'hui, dans notre civilisation moderne, la cour de cassation. Ça veut dire qu'en appel, quand on n'était pas d'accord avec une décision de cour, on pouvait faire appel au grand prêtre qui siégeait justement dans le temple et qui était le juge ultime. Le temple terrestre est, selon la Bible, un reflet du temple céleste. Il y a un temple terrestre, mais il y a aussi un temple céleste. Et alors que justement cette bête épouvantable met le monde sans dessus-dessous, eh bien, le prophète voit le temple céleste. Et dans le temple céleste, un tribunal est installé, un trône, sur lequel prend place le juge suprême, l'ancien des jours, comme l'appelle le prophète, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et ensuite, la cour entre avec des livres, nous est-il dit, qui sont l'accusation qui va être portée contre qui ? Mais contre la bête. Et finalement, le procès qui va se dérouler dans le ciel est un procès de la bête. Et après délibération des juges, la sentence est prononcée, c'est la mort. La bête est condamnée à mort. Et c'est alors que, nous est dit, sur les nuées du ciel, s'avance quelqu'un qui a l'apparence d'un fils de l'homme. Et celui qui s'avance sur cette devant l'ancien des jours reçoit de ce dernier la mission d'exécuter la sentence de mort contre la bête et en même temps d'établir un cinquième empire qui sera le royaume de Dieu, un royaume de justice et de paix, tel que les prophètes, par exemple, au chapitre 11 du livre d'Ésaïe, l'ont établi. Maintenant, ça nous pose la question, qui est ce mystérieux fils de l'homme ? Qu'est-ce que ça veut dire, fils de l'homme ? Le texte de Daniel 7 est en araméen. C'est un des rares textes araméens qu'on trouve dans la Bible. Et en araméen, cette expression « fils de l'homme » se dit « bar enosh ». En hébreu, si vous retraduisez en hébreu, ça se dit tout simplement « ben Adam », ce qui signifie littéralement « un fils d'Adam », ce qui veut dire tout simplement « un être humain ». Et voyez-vous ici, le texte biblique fait un contraste entre ces bêtes féroces, bestiales, sans sentiment humain, et puis finalement, celui qui vient sur l'une du ciel, qui lui, au contraire, est un être humain. On peut traduire ces expressions bar enosh par un être humain. Et cet être humain, comme c'est souvent le cas dans les apocalypses juives de l'époque, il y a une espèce de fluidité qui joue. Ça veut dire que tantôt la représentation, la bête par exemple, ou ici le fils de l'homme, représente un empire, et tantôt représente le chef de cet empire. Et le fils de l'homme de Daniel connaît cette double identité, si j'ose dire. Dans l'explication que l'ange donne à Daniel de la prophétie qu'il a vue, eh bien, il nous dit ceci, que à la fin de la domination de ces empires, Dieu suscitera le royaume des saints du Très-Haut qui ne passera jamais. Royaume des saints du Très-Haut, eh bien, c'est justement ce royaume qui sera caractérisé par des sentiments humains, par opposition aux sentiments bestiaux qui sont ceux des empires humains. Mais ce fils de l'homme représente non seulement un cinquième empire foncièrement différent de tous ceux qui l'ont précédé, mais également il représente le chef de cet empire, le roi de cet empire, celui que l'on appellera le Messie. Et il est très intéressant de noter, par exemple, que dans la littérature intertestamentaire, et notamment dans ce qu'on appelle toute la littérature des Nok, qui est un personnage sur lequel je reviendrai dans un instant, eh bien, il y a toute une réflexion sur cette prophétie de Daniel 7, et notamment sur cette personnalité du Fils de l'homme. Et dans cette littérature intertestamentaire, le Fils de l'homme est assimilé au Messie. C'est le Messie, celui qui vient sur les nuées du ciel. Et je voulais vous lire un extrait d'un texte qu'on a trouvé à Qumran et qu'on appelle le Testament de Nephtali, qui nous parle justement de cette venue du Messie. C'est intéressant. Nous entrons dans la période de l'Avent, dans la période de Noël. Et voici ce que nous dit ce texte. Il est question du Fils de l'homme, justement. « Son étoile se lèvera dans le ciel comme celle d'un roi. Le péché prendra fin, ainsi que l'absence de loi. Il ouvrira les portes du paradis. L'épée des chérubins leur sera enlevée. Il rendra au sein l'arbre de la vie. L'esprit de sainteté sera sur lui. Béliard, c'est-à-dire le diable, sera lié. Il donnera pouvoir à ses enfants pour marcher sur les puissances des ténèbres. Et le ciel s'ouvrira. » Un autre texte trouvé à Qumran également, qui a été une très très grosse surprise par ceux qui l'ont déchiffré. Bon, on le connaissait depuis longtemps, mais vous savez, tellement de ces manuscrits de Qumran qu'on est encore aujourd'hui à les déchiffrer. Et un des textes qui a été déchiffré il y a simplement quelques années nous parle du Fils de l'homme, du Messie. Il nous est dit « Il sera appelé le Fils du Très-Haut ». Donc ici, cette filiation divine du Messie, qui était déjà quelque chose qui était annoncé dans la littérature qui a précédé le Nouveau Testament et la venue de Jésus. Et c'est intéressant de noter que cette expression « Fils du Très-Haut », nous la retrouvons dans l'annonciation de l'ange Gabriel à Marie, quand l'ange lui annonce qu'elle va devenir la mère du Messie. L'ange lui dit que cet enfant qui va naître d'elle sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. La littérature de cette période, et notamment la littérature de Qumran, a aussi associé ce fils de l'homme avec le personnage dont il est question dans le psaume 110, où il est dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » C'est un texte qui est aussi cité dans le Nouveau Testament. Et Jésus va poser la question que l'on s'est posée à Qumran, justement. Qui est ce mystérieux personnage qui va s'asseoir à la droite de Dieu? Ça veut dire à l'endroit de la puissance et à l'endroit de l'autorité. Ça veut dire qu'il va recevoir l'autorité divine, qui va être en quelque sorte le lieutenant de Dieu, qui va avoir à sa disposition toute la puissance de Dieu, jusqu'à ce, comme le dit le texte, qu'il ait mis tous ses ennemis sous son marchepied. Ça veut dire qu'il ait accompli ce programme qui est celui du jour de l'Éternel. Et la réponse que l'on trouve à Qumran, qu'on la retrouve aussi dans l'Épître aux Hébreux, c'est que ce personnage n'est autre que le Messie. C'est intéressant de noter que le professeur Gadine a montré que l'Épître aux Hébreux était une épître qui était envoyée en réalité à d'anciens Esséniens convertis au christianisme. Et l'on retrouve dans l'Épître aux Hébreux nombre de ces thèmes que l'on a retrouvés à Qumran. Maintenant, toujours dans ce psaume 110, il nous est dit ceci. « Tu es prêtre à toujours, Al-Divrati Malkitsedek, selon l'ordre de Malkitsedek. » Et là aussi, les textes ont réfléchi sur cette expression. Les rabbins ont réfléchi sur cette expression. Et ils ont dit, eh bien, ce fils de l'homme, qui est-il ? Et non seulement roi, puisqu'il s'assied sur le trône, mais il est également prêtre, thème que vous retrouvez aussi dans l'Épître aux Hébreux. Et il est prêtre du temple céleste. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un temple terrestre, mais il y a un temple céleste. Et ce fils de l'homme qui vient sur les nuées du ciel est finalement le prêtre, le grand prêtre du temple céleste, dont le sacerdoce ne dépend pas d'Aaron comme celui du temple terrestre, mais dépend de Malchisédek, qui lui aussi est associé, en fin de compte, au Messie lui-même. Et enfin, il est aussi associé avec Hénoc, dans la mesure où Hénoc est aussi un personnage qui est entré dans le temple céleste, comme on le sait, sans avoir vu la mort. Et il y a cette idée que, depuis les origines, parce que justement il est prêtre de Malchisédek, et Malchisédek, comme c'est dit dans l'Épître aux Hébreux, demeure éternellement. Le Messie existe avant même la création du monde. Et pendant tout un temps, il est resté caché. Mais au temps de la fin, il sera révélé, il sera manifesté, et il viendra sur les nuées du ciel pour exécuter cette rédemption, ce deuxième exode. Il sera en même temps le nouveau Moïse, celui qui va prendre la tête de cette ultime délivrance du peuple de Dieu, comme l'a été la délivrance du premier Moïse, c'est-à-dire en réalité du premier libérateur. Et dans toute cette littérature, dans toutes les littératures, le Fils de l'homme est en réalité le juge des derniers jours. Vous retrouvez ça, par exemple, dans Matthieu 25, où il nous est dit que lorsque le Fils de l'homme viendra au dernier jour dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa majesté. Et toutes les nations seront rassemblées devant lui. Et ce sera le grand jugement, ce grand tri, cette grande crise dont nous avons parlé tout à l'heure. Et il mettra les justes à sa droite et les injustes à sa gauche, de la même manière qu'un berger sépare les brebis et les boucs. Il faut savoir que, effectivement, jusqu'à aujourd'hui, il y a une grande différence entre les brebis et les boucs. Dans le désert, on élève jusqu'à aujourd'hui du petit bétail, c'est-à-dire des brebis et des chèvres. Et il y a parfois, malheureusement, et c'est le cas en ce moment, des périodes de sécheresse et donc des périodes de famine. Et là, les bergers ont une dimension, j'appellerais, écologique. Ça veut dire qu'ils savent pertinemment bien, un berger qui connaît bien son métier, c'est qu'il y a une différence entre le mouton, qui se contente de brouter ce qui est en surface, mais qui laisse les racines en place. C'est bien que quand une région a été broutée par un troupeau de moutons, eh bien, la végétation va repousser. La chèvre, au contraire, elle mange tout. Elle mange jusqu'aux racines. Et la chèvre, quand elle est arrivée dans un certain endroit, elle laisse derrière elle le désert. Et dans les périodes de sécheresse, vous pouvez encore voir aujourd'hui, et encore aujourd'hui, des bédouins dans le désert qui pratiquent cette séparation. Un berger qui a le sens de ses responsabilités dans une période de sécheresse ne laissera pas les chèvres aller brouter le désert. Il les laissera dans l'enclos, il laissera sortir uniquement les brebis et il donnera du fourrage tout simplement aux chèvres pour qu'elles aient l'occasion de se nourrir. Et voyez-vous, dans cette parabole de Jésus, des brebis et des boucs, les brebis sont l'image des justes, tandis que les boucs sont l'image des méchants. Et donc ici, le Messie, fils de l'homme, sera le juge des derniers jours. Cette expression, fils de l'homme, vous le savez, c'est une expression que Jésus employait beaucoup lorsqu'il parlait de lui-même. Et il en parlait toujours à la troisième personne. C'est une notion à noter que Paul ne l'emploie jamais dans ses épîtres. Pourquoi ? Parce que c'est une notion qui est pratiquement incompréhensible pour les non-juifs. Et de fait, les pères de l'Église, qui étaient des non-juifs, se sont complètement mépris sur la signification de l'expression « fils de l'homme ». Dans les premiers siècles de l'Église, jusqu'au IVe siècle, on a beaucoup réfléchi, discuté, polémiqué sur la nature de Jésus. Qui est Jésus ? Et finalement, les pères de l'Église sont arrivés à une conclusion après des siècles, enfin disons du moins, oui, des siècles, on peut dire, de discussion, de réflexion, qu'il y avait en Jésus deux natures, la nature divine et la nature humaine. Et que Jésus, comme le disent la plupart des confessions de foi, est pleinement Dieu, mais aussi pleinement homme. Et les pères de l'Église, pour exprimer ces deux natures de Jésus, ont parlé de Jésus, fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus dans sa nature divine, et Jésus, fils de l'homme. Et ils ont repris justement cette expression de l'Évangile, et ils ont cru que quand il se qualifiait de fils de l'homme, Jésus faisait allusion à sa nature humaine. Cette idée que Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu, elle est profondément biblique. Mais l'expression « fils de l'homme » n'avait pas du tout pour but d'exprimer la nature humaine de Jésus. Je dirais même l'inverse, qu'elle avait pour but de manifester sa transcendance, sa nature divine, puisqu'il est précisément ce personnage qui est assis à la droite de Dieu, qui est au commencement avant toute chose, et qui n'apparaîtra que dans les derniers temps pour manifester la gloire et la puissance de Dieu dans cette théophanie ultime. Et c'est quelque chose qui a à voir justement avec son rôle de juge des derniers jours. Maintenant, il y a aussi quelque chose de très intéressant quand nous lisons l'Évangile. C'est que l'expression « fils de l'homme », Jésus l'emploie aussi quand il parle de ses souffrances. Or, nous avons vu, selon Daniel et selon les textes de l'époque, l'expression « fils de l'homme » exprime la venue du Messie dans sa gloire au dernier jour. Comment Jésus peut-il l'employer quand il parle de ses souffrances ? Nous trouvons dans les évangiles trois annonces des souffrances de Jésus. Et chaque fois, Jésus déclare à ses disciples « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs », qui était une manière de désigner les Romains, les non-juifs. C'est intéressant parce que Jésus ici aussi désigne ce que seront ces assassins. Non pas les juifs, comme on le fait dire aujourd'hui, mais effectivement les Romains. Les Romains n'aimaient pas qu'on parle d'eux trop, et notamment qu'on les accuse. Alors on employait des expressions codées qui n'étaient compréhensibles que par des gens qui étaient initiés. Et parler des pécheurs ou des païens, c'était une manière de désigner les Romains. Donc le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs qui le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Vous retrouvez ça aussi, surtout dans l'Évangile de Jean. Au moment de la description de la passion. La passion dans l'évangile de Jean occupe à peu près un tiers de l'évangile. C'est dire l'importance que Jean lui donne. Et la passion commence, le récit de la passion commence par cette visite de ces Grecs qui disent « Nous voudrions voir Jésus ». Jésus dit ceci « L'heure est venue où le Fils de l'homme va être glorifié ». Et il parle de l'élévation du Fils de l'homme. Et là, nous sommes dans ce paradoxe dont Jean est familier. L'évangile de Jean est le plus paradoxal de tous les évangiles. Donc ici, l'heure est venue où le Fils de l'homme va être glorifié. Et en effet, le Fils de l'homme, c'est le Messie dans sa gloire. Et Jésus ajoute, « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Maintenant est venu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde, le diable, va être jeté dehors. » Par conséquent, c'est l'accomplissement de cette vision de Daniel, le temps du jugement de la bête. Et pour cela, le Fils de l'homme va être élevé. Mais la suite du récit de Jean nous montre ce que sera cette élévation. Cette élévation, ce sera l'élévation sur la croix. Or, la croix, c'est non seulement, comme le dira Cicéron, un des supplices les plus cruels auxquels un homme puisse être soumis, mais à l'époque de Jésus, c'était la pire humiliation à laquelle on pouvait soumettre quelqu'un. C'était le supplice qui était réservé aux pires malfaiteurs, aux esclaves, aux rebelles, bref, à tous ceux que l'on voulait humilier. D'ailleurs, ceux qui étaient ainsi crucifiés étaient crucifiés nus. Et nos représentations qui nous montrent Jésus vêtu d'une espèce de pagne quand il était sur la croix ne correspondent pas à la réalité. Et c'était une manière aussi d'humilier ce que l'on voulait ainsi abaisser en les mettant dans cette situation-là. Et pour un juif, c'était pire encore. Paul nous parle d'un scandale de la croix. Nous prêchons la croix, disait-il. Scandale pour les juifs. Pourquoi ? Parce que la crucifixion était considérée comme une pendaison. Et il y a un texte du Deutéronome qui nous dit ceci. Maudit est quiconque est pendu au bois. Et voyez-vous, nous ne pouvons pas nous imaginer, nous représenter ce que signifiait une crucifixion, un Messie crucifié à l'époque de Jésus. C'était tout simplement une impossibilité. Et c'est pourquoi Saul de Tarse ne pouvait pas admettre cette idée d'un Messie crucifié. C'était pour lui quelque chose d'impensable, la pire des humiliations. Et Jean nous dit, et nous présente la croix de Jésus comme un trône. En fait, Jésus va être élevé sur le trône, sur la croix. Et tout le récit de la Passion nous montre Jésus absolument maître des événements. Comme il le dira lui-même, « Personne ne me prend la vie, je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. » Jésus meurt au moment où il a décidé de mourir. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et les soldats romains sont étonnés de ce que Jésus soit mort si vite, parce que justement, personne ne lui a pris sa vie. Il est le maître des événements. Il va confier sa mère aux disciples qui se trouvent au pied de la croix, Jean. Bref, il dirige toutes choses. Et la croix est un trône sur lequel Jésus règne. Et la croix est non seulement un trône qui manifeste justement la gloire du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est élevé sur la croix dans sa gloire, une gloire évidemment que simplement l'Esprit de Dieu peut révéler. Mais en même temps, cette croix, elle est un jugement. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde est jeté dehors. Ça veut dire que la croix opère cette séparation entre les justes et les méchants, entre les brebis et les boucs. C'est déjà quelque chose qui a lieu. Nul ne peut rester neutre devant la croix. Il faut prendre position ou pour Jésus ou contre lui. Et selon cette prise de position, eh bien, déjà le jugement est scellé. Celui qui rejette la croix, déjà son jugement est scellé devant Dieu. Et ce qui se manifestera au dernier jour ne sera que la manifestation visible de ce qu'a été le jugement de la croix. Et le troisième jour, nous est-il dit, il ressuscitera. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le troisième jour. Le troisième jour, il en est question dans le livre d'Osée, nous est dit, « Venez, retournons à l'Éternel. Il a frappé, mais il nous guérira. Et le troisième jour, il nous rendra la vie. » Les rabbins ont commenté ce texte et ils ont compris comme le fait l'Évangile, que c'était une prophétie messianique. Et donc, il y aurait une résurrection du Messie. Jésus dira ça à ses disciples, qu'elle est à Emmaüs. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il ressuscite le troisième jour? Donc, c'est quelque chose qui était compris. Mais pourquoi le troisième jour? Parce que le troisième jour, c'est le jour du salut. C'est le jour de la rédemption. Il y a beaucoup d'allusions à ce troisième jour dans la Bible, le troisième jour où Joseph a fait emprisonner ses frères et il les libère le troisième jour. Il y a aussi, en relation avec l'arche, le troisième jour, Dieu se souvient de tous les animaux qui sont avec Noé dans l'arche, etc. Et les rabbins ont dit, Dieu ne laisse pas le juste souffrir plus de trois jours. Et le troisième jour, eh bien, il le délivre de toutes ses oppressions. Alors évidemment, cette expression « troisième jour » n'est pas à prendre au pied de la lettre. Ça veut dire « Dieu ne permet pas que le juste souffre au-delà de ce qu'il est capable de supporter ». Vous avez ça dans la première aux Corinthiens au chapitre 10. Il nous est dit que Dieu ne permettra pas que l'épreuve dépasse vos forces. Et c'est l'idée. Mais le troisième jour, c'est aussi le jour du salut, le jour de la rédemption. Et le jour de la rédemption, ce jour de l'Éternel, ce jour où Dieu interviendra dans l'histoire des hommes, alors ce sera aussi le jour de la résurrection des morts. Et Daniel, dans le chapitre 12, nous dit qu'en ce temps-là, une multitude de ceux qui dorment dans la poussière ressusciteront pour la vie. Et c'est non seulement la résurrection du Messie qui est ainsi prophétisée, mais, comme dira l'apôtre Paul dans la première aux Corinthiens, chapitre 15, la résurrection du Messie est le premier pas et la garantie que tous revivront en lui, en son temps. Mais finalement, de la même manière que tous meurent en Adam, nous dit l'apôtre Paul, tous aussi renaîtront dans le Messie. Et donc, aussi, c'est l'idée d'un court temps et l'entrée dans quelque chose de nouveau, et quelque chose de meilleur. Donc, ici, c'est quelque chose qui est en relation avec cette vision du Fils de l'homme de Daniel. Mais maintenant, le Fils de l'homme, il est en relation aussi avec les nuées du ciel, nous l'avons vu. Et là aussi, nous retrouvons cela dans l'Évangile. Il nous est dit que, dans le chapitre 1er du livre des Actes, notamment, qu'après être apparu pendant 40 jours à ses disciples après la résurrection, Jésus les emmena sur une haute montagne, à savoir la montagne des Oliviers. Là, il leur donne ses dernières instructions. Et alors, il nous est dit qu'il fut enlevé. Et soudain, une nuée le couvrit. Voici, il vient sur les nuées. Ça ne veut pas dire des nuages. La nuée, nous la retrouvons dans le livre de l'Exode précisément, où il est question de la présence de Dieu. La nuée, c'est aussi une manière de théophanie. Cette nuée, elle était déjà sur le mont Sinaï. Elle est aussi cette nuée qui conduisait le peuple dans toutes ses pérégrinations dans le désert. Et elle est à la fois la manifestation de la gloire de Dieu. Et en même temps, Dieu, par la nuée, se révèle et se cache. Car si Dieu se révélait d'une manière visible à l'homme, l'homme pécheur ne pourrait pas le supporter et il en mourrait. Car voir Dieu, c'est mourir pour l'homme pécheur. Alors, Dieu se manifeste tout en se cachant. C'était la nuée qui a rempli le tabernacle, puis le temple, quand les deux édifices ont été inaugurés, l'un par Moïse, l'autre par Salomon, et c'est cette nuée, la Kavod, qui a quitté le temple au moment où Ézéchiel donc a vu ce départ et en même temps ce retour ensuite de la Kavod, de la gloire de Dieu au travers justement de la nuée. Et le Fils de l'homme du chapitre 7 de Daniel, il vient sur les nuées du ciel, ça veut dire qu'il est celui qui vient dans la puissance de Dieu, avec la puissance de Dieu, pour manifester et pour révéler la gloire de Dieu. Et ce personnage, il est aussi donc en relation avec cette manifestation ultime de la gloire de Dieu, cette dernière théophanie au dernier jour. Et voyez-vous, au moment où cette nuée le cache, les disciples restent à regarder le ciel. Et des anges leur apparaissent en disant, « Bien, homme galiléen, pourquoi regardez-vous le ciel ? Ce Jésus que vous avez vu monter au ciel sur les nuées, il reviendra de la même manière. Il reviendra sur les nuées. » Avec cette fois-ci, beaucoup d'anges et la gloire de Dieu. Il vient sur les nuées, vous retrouvez ça, on l'a lu tout à l'heure, dans le livre de l'Apocalypse, et c'est tiré justement de ce texte. Et voyez-vous, un des noms du Messie dans la tradition juive, jusqu'à aujourd'hui, c'est Abba. Ça veut dire littéralement « celui qui vient ». Et c'est aussi une expression qui est tirée d'un autre psaume souvent cité dans le Nouveau Testament. « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », psaume 118. « Béni soit celui qui vient », Baruch Abba, Beshem Adonai, Abba, le Messie qui vient. On l'appelle aussi Hanani, Hanan, ça veut dire la nuée, parce que justement, il vient, mais il vient sur les nuées du ciel. Et il est aussi, pour les rabbins, la pierre qui a été rejetée et qui, justement, viendra au dernier jour aussi dans la gloire de Dieu. Vous vous souvenez aussi comment Jean-Baptiste avait posé la question à Jésus alors qu'il était dans sa prison. « Es-tu, allons-y, celui qui doit venir ?» Mais en fait, il faut traduire « Es-tu celui qui vient ?» Ça veut dire « Es-tu le Messie ?» C'est un des noms du Messie. Ou bien, devons-nous en attendre un autre ? Et il nous est dit que donc il vient sur les nuées. Et à ce moment-là, tout œil le verra. Ça veut dire que précisément, cette nuée s'écartera. Et la gloire du Seigneur apparaîtra dans toute sa puissance. Et on peut dire que jusqu'alors, dans sa première venue, le Messie était enveloppé dans ce mystère, dans cette gloire, comme le dira l'apôtre Jean. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle venue du Fils unique. Mais seuls ceux qui sont nés de l'Esprit, ceux qui sont nés d'en haut, dira Jésus à Nicodème, sont capables de discerner cette gloire. Les autres n'ont rien vu, parce que la gloire de Jésus est voilée. Elle est voilée comme dans une nuée. Mais lorsqu'il viendra au dernier jour, cette nuée disparaîtra et tout œil le verra dans sa gloire. Et évidemment, ce sera la théophanie, la manifestation de la gloire de Dieu. Et ça sera pour les injustes une vision quasiment insupportable. Et les textes prophétiques nous disent qu'à ce moment-là, les grands de ce monde se cacheront dans les rochers et diront « Montagne, tombez sur nous, cachez-nous de la colère de celui qui est assis sur le trône et de l'agneau. » Mais au contraire, les justes se réjouiront en lui. Nous avons vu que le Fils de l'homme, ça se dit aussi en hébreu « Ben Adam », ça veut dire « le fils d'Adam ». Et il y a une notion qu'on trouve aussi dans les textes bibliques, à savoir que Jésus est le deuxième Adam. Vous trouvez ça, bien sûr, dans les épîtres de Paul, notamment au chapitre 15 de la première aux Corinthiens. Il y a eu un premier Adam qui a entraîné la malédiction sur le monde, et il y aura un deuxième Adam qui, au moment de ce deuxième exode, de cette dernière rédemption, eh bien, anéantira et détruira cette malédiction pour que cette malédiction soit changée en bénédiction. Et il sera, ce faisant, le deuxième Adam. Et il y a, dans la tradition juive, une idée que nous ignorons parce que nous lisons la Bible dans des traductions, où nous est dit que, donc, après la chute, après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève reconnurent qu'ils étaient nus. Ça, les pères de l'Église, qui étaient obnubilés par la sexualité, ont cru que ça avait à voir avec la sexualité. En fait, ça n'a rien à voir. Être nu dans la Bible, c'est être dans une situation misérable. tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. La nudité, c'est le symbole de la faiblesse, du dénuement, de l'incapacité, de tout ce qui est négatif pour l'homme. Et soudain, après avoir mangé, après avoir désobéi à Dieu, Adam et Ève prennent conscience de leur précarité, de leur faiblesse, de leur dénuement. Et alors que le diable leur avait dit « Vous serez comme Dieu », connaissant le bien et le mal, ils découvrent effectivement cette faiblesse qui est la leur. Et ça veut dire qu'auparavant, ils ne se rendaient pas compte. Non, nous dit la tradition juive. Et vous voyez, après la chute, pour couvrir cette nudité, le premier couple se fait des ceintures de figuier. Mais Dieu va changer ces ceintures de figuier en leur donnant des peaux de bêtes. Et en hébreu, peau se dit or. Et il y a un autre mot aussi. Or, ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire la lumière. Ça veut dire la peau et ça veut dire la lumière. Est-ce à dire, encore une fois, qu'avant la chute, Adam et Ève n'étaient pas conscients de leur précarité, de leur faiblesse? Non. Parce qu'ils étaient revêtus, non pas de vêtements, mais de la gloire de Dieu, de la lumière de Dieu. Or, et lorsqu'ils pêchent, cette gloire de Dieu les abandonne, et ils réalisent qu'ils sont nus. Et alors ils vont essayer justement de se protéger, mais Dieu va changer, non, je vais vous donner des peaux de bêtes. Et les peaux de bêtes sont une prophétie, en disant, un jour, cette gloire qui vous a quitté, ce vêtement de gloire, ce vêtement de lumière qui vous entourait, qui vous protégeait, il vous sera rendu. Et nous retrouvons ça dans la tradition juive. Quand le Messie viendra, il sera revêtu de ce vêtement de lumière qu'Adam a perdu, parce qu'il sera le second Adam. Et vous trouvez ça, bien sûr, aussi dans l'Évangile, où il nous est dit que tout œil le verra. Comme l'éclair qui part de l'Orient et qui va à l'Occident, ainsi sera le jour de l'Éternel dans sa gloire. Une gloire éblouissante, une gloire qui sera comme un éclair. Et il y a un épisode dans l'Évangile qui nous montre exactement la réalisation de cette prophétie. C'est l'épisode de la Transfiguration. La Transfiguration, c'est en quelque sorte l'anticipation de la parousie. C'est l'anticipation de la venue de Jésus dans sa gloire au dernier jour. Et il nous est dit qu'alors qu'il est à prier sur la montagne, son vêtement devint éblouissant comme la neige. Un vêtement de lumière, les vêtements de Jésus deviennent ce vêtement de lumière qui était celui d'Adam au commencement et qui réapparaîtra au dernier jour quand le Messie viendra dans sa gloire. Et voyez-vous, là, nous avons toute cette vision qui est celle justement de celui qui vient. Maranatha, il vient sur les nuées. Et personne ne pourra être étranger à cet événement qui sera vu d'une extrémité de la terre à l'autre. Comment ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ce que la Bible nous dit qui sera. Et voyez-vous, il nous est dit Maranatha. Le Seigneur vient. Mais si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Si quelqu'un n'a pas justement anticipé cet événement, n'a pas calqué sa vie sur cet événement sera pour lui un temps de détresse, un temps de jugement, anathème. Ça veut dire il sera retranché, il sera mis de côté. Et ensuite, à la fin du livre de l'Apocalypse, nous retrouvons cette même idée. Voici, je viens vite. Non pas bientôt, comme on traduit, mais je viens vite, comme l'éclair. Ce sera un événement soudain et rapide. Je viens vite. Et c'est pourquoi l'esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui entend dise viens. Il est celui qui s'appelle « Je viens ». Et malheur à celui qui ajoutera ou qui retranchera des paroles de ce livre, parce que justement il sera anathème. Et le soupir de l'esprit, c'est « Oui, Amen, viens Seigneur Jésus ». J'aurais beaucoup aussi de choses à dire sur un autre thème, j'en parlerai peut-être tout à l'heure d'ailleurs, le Fils de l'homme, en tant qu'époux, l'époux des derniers jours. Ça, je le laisserai pour tout à l'heure, mais je termine simplement maintenant sur cette expression justement « Oui, Amen, viens Seigneur Jésus ». Et le Seigneur nous montre que une des grandes tentations, une des grandes épreuves qui sera celle de son peuple au temps de la fin, ce sera les retards de la parousie. Et de très nombreuses paraboles nous parlent de ce retard de la parousie. Alors c'est l'histoire des 10 vierges. Comme les poux tardés, elles s'endorment toutes. C'est l'histoire des mauvais serviteurs. Le mauvais serviteur qui dit « Mon maître tarde à venir, donc puisque j'ai le temps, prenons du bon temps. » Et il vient au moment où il ne s'y attend pas. C'est l'histoire de la parabole des talents. Ce méchant serviteur qui est allé cacher son talent dans la terre. Et il est dans la confusion quand son maître revient. C'est aussi surtout l'histoire du juge unique et de la pauvre veuve. Et Jésus nous dit, au temps de la fin, le mal sera tellement incroyable sur la terre qu'on a l'impression qu'on aura l'impression que Dieu se désintéresse de sa création. Et les justes pourront être amenés à penser que Dieu se comporte comme un juge unique. Nous crions à toi nuit et jour en nous disant « Fais-nous justice !» Et Dieu ne répond pas. Alors on pourra penser que Dieu n'entend pas, que Dieu est un juge unique. Et Jésus dit « Attention, ce sera le principal obstacle et le principal objet d'une chute pour le peuple de Dieu que de s'imaginer que, puisque le Seigneur ne revient pas aussi vite que ce que l'on pensait, alors, eh bien, on a le temps. Il viendra comme un voleur dans la nuit, au moment où personne ne s'y attendra. Et tout le monde, les justes et les autres, seront surpris. Les vierges, elles sont toutes surprises, les sages et les folles. Mais il y a une différence, les unes sont prêtes, les autres ne le sont pas. Jésus conclut en disant, « Soyez présents tout temps, puisque vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. » Et ça, c'était le grand enseignement de Jésus par rapport à son retour. Il est inutile d'essayer de faire de vaines spéculations sur les temps et les moments. Jésus a dit que c'était quelque chose qui était le secret de Dieu et qui ne serait révélé à personne, mais que justement, à cause de cela même, il fallait être prêt en tout temps. Et ce sera ma dernière question. Sommes-nous prêts? Sinon, il est encore temps. Il est encore temps d'acheter de l'huile avant que le Seigneur ne vienne, pour que nous soyons prêts à entrer dans la salle du festin. Maranatha, il vient. Si quelqu'un n'est pas dans cette situation-là, si quelqu'un n'est pas saint, comme disait le texte de la Didaké, qu'il se repente pour pouvoir être prêt à entrer dans la salle du festin de noces. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, tu nous rappelles que tu es celui qui vient. C'est ton nom, tu t'appelles celui qui vient, celui qui est, qui était et qui vient. Et tu viens, Seigneur, pour délivrer ton peuple de toutes les oppressions qui sont les siennes. L'oppression du péché, de la maladie, de la souffrance, de tout ce qui peut nous opprimer. Et Seigneur, cette certitude que tu es celui qui vient et qui vient vite, c'est ce qui nous permet, Seigneur, d'attendre avec espérance et sans broncher ces temps, Seigneur, qui, c'est vrai, peuvent nous sembler parfois bien longs et qui pourraient nous amener à déchoir de notre fermeté en nous imaginant, Seigneur, que eh bien, nous sommes encore loin de ce temps. Mais Seigneur, tu nous montres que nous sommes dans ce temps. Alors Seigneur, donne-nous d'être ceux qui ont les reins saints et les lampes allumées qui attendent que leur maître revienne des noces et non pas ceux qui en profitent pour prendre du bon temps comme nos mauvais serviteurs. Afin, Seigneur, que quand tu viennes, tu nous trouves à l'œuvre et que tu nous puisses nous faire asseoir dans ton royaume pour manger et boire dans ce royaume de Dieu. Et Seigneur, avoir part à cette gloire éternelle, nous demandons au nom de Jésus. Amen. Voilà, notre deuxième partie sera sur un thème que j'ai déjà un peu abordé. Les fêtes d'Israël et l'Apocalypse. Et je voudrais introduire cette réflexion par un texte dans le Cantique des Cantiques, aussi étrange que cela puisse paraître, dans le chapitre 2, à partir du verset 8. « C'est la voix de mon bien-aimé, le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines, mon bien-aimé est semblable à une gazelle. » Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un thème extrêmement important dans toute la Bible, qui est comme un fil conducteur qui parcourt toute la Bible, c'est le thème du deuxième Exode. J'en ai déjà parlé. Et le livre peut-être qui reprend ce thème d'une manière la plus précise, c'est le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse développe ce thème du deuxième Exode que l'on trouve chez les prophètes. Pourquoi justement le deuxième Exode et pourquoi l'Apocalypse ? Parce que nous trouvons une fête qui est la fête messianique par excellence et qui justement est la fête en même temps du premier et du deuxième Exode, c'est la fête de Pâques. La fête de Pâques était à l'époque biblique la plus importante des fêtes d'Israël et selon une vieille tradition, c'était la fête au cours de laquelle le Messie devait venir. Et c'est encore une tradition qui existe aujourd'hui au sein du peuple d'Israël. Et par exemple, une des coutumes, encore aujourd'hui, au moment de cette fête, c'est que au moment où va commencer le repas de Pâques, le père de famille envoie le plus jeune des enfants à la porte pour voir si le prophète Élie vient. Parce qu'il y a cette idée que l'année où viendra le Messie, le prophète Élie passera dans les maisons de tous les Israélites qui célèbrent la fête de Pâques pour leur annoncer la bonne nouvelle du Messie, de la venue du Messie. Et pour cette raison même, à la table de Pâques, on laisse une place vide, qui est la place du prophète. Et on laisse aussi un verre de vin auquel on ne touche pas, que l'on appelle pour cette raison la coupe du royaume. Ça veut dire qu'on ne boira de cette coupe que lorsque Élie sera venu. Élie sera le premier à boire de cette coupe et ce sera l'annonce de la venue du royaume de Dieu. La fête de Pâques est une nuit de veille où, en principe, on ne doit pas dormir. Pourquoi ? Au cas où, justement, le Messie viendrait dans cette nuit-là. Et on fait en sorte que les enfants ne dorment pas. Le rituel de Pâques est très long, déjà. Il dure, disons, avec le repas, il dure environ 3 heures dans chaque famille. Et lorsqu'on a terminé le rituel, on va raconter aux enfants toutes sortes d'histoires. On va leur faire jouer pour les empêcher de dormir. Parce que si le Messie venait dans cette nuit, il ne faudrait pas qu'il trouve personne assoupi. Je vous ai parlé tout à l'heure des Vierges. Et justement, cette parabole des Vierges, elle est directement en relation avec la fête de Pâques. Vous vous souvenez aussi que Jésus est allé le soir de Pâques, où il a été livré dans le jardin de Gethsémané, et il avait aussi ordonné à ses disciples de ne pas dormir, de veiller avec lui. Or, malheureusement, les disciples se sont assoupis, ce qu'ils n'auraient pas dû faire, ce qui était une faute par rapport aux exigences de la religion juive. Et on sait que Jésus, le Messie, s'est manifesté au moment de cette fête de Pâques, exactement comme le peuple d'Israël l'espérait et l'attendait. La parabole des Vierges est directement en relation avec ce texte du Cantique des Cantiques que nous avons lu il y a un instant. Il faut savoir qu'à l'occasion des principales fêtes d'Israël, on lit dans la synagogue un des cinq petits rouleaux. Il y a cinq fêtes essentielles en ce qui concerne le calendrier liturgique juif. Et à chacune de ces fêtes, on lit ce qu'on appelle un petit rouleau. Les petits rouleaux, ce sont les livres comme justement le Cantique des Cantiques, Esther, l'Ecclésiaste, Ruth et les Lamentations, de Jérémie. On les appelle rouleaux parce que logiquement, par exemple pour ce qui est du livre d'Esther, on ne peut pas les lire dans la synagogue à partir d'un texte imprimé sur un codex, c'est-à-dire sur un livre dont on tourne les pages, ce qui est pour nous un livre, mais sur un rouleau écrit à la main. Tiens, j'en ai un chez moi, j'aurais pu vous l'amener, je vous aurais montré à quoi ça ressemble, qui a été écrit à la main spécialement par un scribe professionnel. Et pour la fête de Pâques, on lit le Cantique des Cantiques, pour deux raisons. La première, parce que le Cantique des Cantiques décrit d'une manière très poétique le très court printemps israélien. Et Pâques se situe au printemps, c'est le début du printemps. Mais surtout, parce que, disons, un petit siècle avant Jésus, on a commencé à lire le Cantique des Cantiques, qui sont en fait cinq poèmes qui sont écrits pour des mariages. On a commencé à lire ce livre comme une prophétie de la venue du Messie, du mariage entre l'époux, c'est-à-dire le Messie, et l'épouse, c'est-à-dire Israël. Et c'est la raison pour laquelle on lit le livre du Cantique des Cantiques à l'occasion de Pâques, parce que Pâques est la fête messianique où aura lieu précisément ce mariage entre le peuple d'Israël et son Messie, qui est l'époux. Il est intéressant de noter que très souvent dans l'Évangile, il est question de l'époux. Déjà, on trouve ça évidemment aussi dans le psaume 45, qui est aussi un cantique de mariage, et la tradition juive aussi rapprochait le psaume 45 avec le Cantique des Cantiques, où il est question aussi de l'époux qui est en réalité le Messie. Et en particulier, le texte que nous avons lu, « Mon bien-aimé est semblable à une gazelle, il vient ». Là aussi, nous retrouvons cette expression « Voici, il vient, c'est mon bien-aimé, il vient bondissant sur les montagnes, sautant sur les collines, mon bien-aimé est semblable à une gazelle ». Pourquoi une gazelle ? Eh bien, d'abord parce que la gazelle, « zvi » en hébreu, c'est le symbole de la beauté. Et il nous est dit, dans le psaume 45 notamment, « Tu es le plus beau des fils de l'homme ». Donc ici, le Messie, le fils de l'homme, c'est le Messie, donc tu es le plus beau. Et la gazelle est le symbole de la beauté. Mais aussi pour une autre raison, parce que la gazelle est un animal qui est animé d'une agilité absolument extraordinaire. Et la gazelle est capable de dévaler à une vitesse phénoménale des pentes extrêmement abruptes, de les escalader avec la même vitesse, sans se rompre les os. Et quand on voit une gazelle, justement, qui court sur les montagnes, on a l'impression qu'elle va se rompre les os, c'est pas possible. Et en fait, elle s'en sort toujours. Et les sages ont dit, Israël, donc le Messie vient bondissant sur les montagnes. Les montagnes, ce sont les prophéties. Ça veut dire, le Messie vient conformément aux prophéties. Et deuxièmement, il vient dans des conditions extrêmement périlleuses. De la même manière que la gazelle vient dans des conditions qui semblent extrêmement difficiles. De la même manière, la venue du Messie n'est pas quelque chose d'évident, mais c'est quelque chose qui représente apparemment, en tout cas, des périls extrêmes. Mais de la même manière que la gazelle a en elle des ressources qui lui permettent de vaincre ses difficultés, de même, le Messie aura en lui des ressources qui lui permettront de surmonter tous les obstacles que les hommes et que les puissance des ténèbres, essaieront de mettre devant lui. Le voici, il vient. Donc, on fait la référence aussi avec le texte du psaume 118 que nous évoquions tout à l'heure. « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Dans plusieurs textes du Nouveau Testament, Jésus est aussi désigné comme l'époux. Par exemple, dans le début de l'évangile de Jean, donc on envoie les pharisiens de Jérusalem envoient en Galilée des messagers auprès de Jean-Baptiste pour lui demander « Es-tu celui qui vient ?» Donc, « Es-tu le Messie ?» Et Jean répond « Non, je ne suis pas le Messie. Je suis l'ami de l'époux. » L'époux, eh bien, c'est le Messie. Et lui, il n'est que l'époux du Messie. Évidemment, c'était un langage qui était tout à fait compris par le peuple juif à cause, justement, de cette référence avec le Cantique des Cantiques que nous avons évoqué. Nous avons un autre texte aussi où il nous est dit que Jésus a mangé avec des gens de mauvaise vie, des pécheurs, etc. Et on lui reproche, il dit, mais les disciples de Jean jeûnent, tandis que toi, tu fais bombance. Et Jésus répond, comment les amis de l'époux peuvent-ils jeûner alors que l'époux est avec eux? Un jour viendra où les poux leur seront enlevés, alors à ce moment-là, ils jeûneront. Donc Jésus ici, quand il parle comme cela, se désigne pour tous ses auditeurs comme étant en réalité le Messie. Et dans l'Évangile, d'une manière générale, il est question aussi de ce festin des noces de l'agneau et l'éternité, et comparé justement à un mariage. Donc l'époux, ce mariage qui aura lieu entre l'épouse et l'époux au temps de la fin. Et il y a une anticipation de ce temps au moment du repas de Pâques. Le repas de Pâques, dans la tradition juive, est une anticipation du banquet eschatologique qui sera celui des épousailles entre le Messie et son peuple. Et c'est la raison pour laquelle on mange couché comme des grands seigneurs, on fait toutes sortes d'entorses à ce qui est les choses habituelles, parce que précisément on anticipe ce temps où on prendra le repas dans le royaume de Dieu. Et cette idée d'un mariage entre le peuple d'Israël et le Messie, on la retrouve aussi chez les prophètes. Notamment chez deux prophètes, Jérémie et Osée. Jérémie nous dit ceci, chapitre 4, « Je me souviens de ton amour pour moi, quand tu m'étais fiancé dans le désert, tu me suivais dans une terre aride. » Et voyez-vous, pour les prophètes, le temps du désert était le temps idéal des relations entre Israël et son Dieu. Et on considère dans la tradition juive que au Sinaï, Dieu a épousé Israël. Ça a été le mariage entre Israël et son Dieu. Et là, le mot-clé de cet événement, c'est « brit », c'est-à-dire on traduit par une alliance. Mais dans la tradition juive, le mariage est aussi une alliance. Une alliance entre l'époux et l'épouse. Et par conséquent, s'il y a eu alliance au Sinaï, ça veut dire qu'il y a eu mariage entre Israël et son Dieu. Et ce mariage, il est exactement comme dans un mariage juif. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un mariage juif, c'est très, très spécial. Les deux époux prennent place sous ce qu'on appelle un dénuptial. On appelle en hébreu « choupa ». C'est un dé qui est porté avec des piquets par quatre garçons d'honneur. Et donc, le fiancé et la fiancée prennent place en dessous de ce dé. Et le fiancé fait le tour de sa fiancée en disant ceci, « Tu m'es sanctifié pour être ma femme selon la Torah de Moïse et d'Israël. » Et cette expression est très intéressante. « Sanctifié ». Vous retrouvez d'ailleurs ce mot dans le chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens, où justement Paul prend aussi cette image du mariage entre le Messie et l'Église, disant donc que le Messie a aimé l'Église, s'est donné pour elle, et il l'a sanctifié par l'eau du baptême. Sanctifié, dans notre langage chrétien, ça, ça évoque essentiellement pour nous une perfection morale. C'est pas faux, bien sûr. Mais le premier sens du mot l'ekadesh en hébreu n'est pas celui-là. Le mot sanctifié signifie littéralement en hébreu mettre à part, séparer pour être consacré à. Quelque chose qui est sanctifié pour Dieu, c'est quelque chose qui est séparé des animaux profanes, par exemple les animaux des sacrifices, pour être ensuite consacré à Dieu. Et quand le fiancé dit à sa fiancée « Tu es consacré pour être ma femme », ça veut dire « Tu es séparé de toutes les autres femmes pour être pour moi l'unique ». Ça veut dire « Je m'engage vis-à-vis de toi à n'avoir avec aucune autre femme les relations que j'aurai avec toi. Et toi de même, tu t'engages vis-à-vis de moi à n'avoir aucune relation comme celle que tu auras avec moi, avec un autre homme. » Or, dans la théophanie du Sinaï, vous retrouvez exactement cet engagement. Au chapitre 20 du livre de l'Exode, il nous est dit ceci, « Si vous écoutez ma voix, si vous le voulez, en quelque sorte, c'est une proposition que Dieu fait à Israël, vous serez pour moi, alors on dit « am segula » en hébreu, ça veut dire « un peuple séparé, un peuple mis à part de tous les autres peuples. Vous serez pour moi un peuple unique. » Ça veut dire, je m'engage vis-à-vis de vous à n'avoir aucune relation avec un autre peuple comme j'en aurai avec vous. Comme un fiancé s'engage avec sa fiancée. Et vous, de votre côté, peuple d'Israël, vous vous engagez parmi la multitude de dieux qu'il y a dans le monde, car à cette époque-là, chaque nation avait ses idoles, on le sait, vous vous engagez à n'avoir aucun autre dieu que moi. Ça veut dire, comme un époux et une épouse sont uniques l'un pour l'autre, de la même manière, Israël et son Dieu sont uniques les uns pour les autres. Maintenant, Dieu a été absolument fidèle à son serment. Et jamais Dieu n'a eu aucune autre relation avec aucun autre peuple comme il en a eu avec Israël. Alors là, vous allez peut-être m'arrêter tout de suite. Vous allez me dire, bah alors l'Église à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle devient dans tout ça? Et puis, est-ce que l'Église n'est pas aussi l'épouse du Seigneur? On a vu tout à l'heure ce texte des Éphésiens. Non, Dieu n'a pas fait d'alliance avec l'Église. Dernièrement, ça fait déjà nombre d'années maintenant, un pasteur me disait, tu vois, l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, c'est une alliance qui a été conclue avec Israël. Mais le Nouveau Testament, c'est une alliance qui a été conclue avec l'Église. J'ai dit faux. L'expression « nouvelle alliance », elle est tirée de Jérémie 31:31. Et qu'est-ce qui nous est dit dans ce texte ? Voici, dit le Seigneur, je fais avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, ce qui se dit en vieux français, un nouveau testament. Par conséquent, même la nouvelle alliance a été conclue uniquement, exclusivement avec le peuple d'Israël. Paul nous rappelle ça aussi dans le chapitre 9 de l'Épître aux Romains, quand il dit à Israël, appartiennent les alliances. Donc toutes les alliances ont été conclues uniquement avec le peuple d'Israël. Mais dans son amour et dans sa grâce pour les païens, Dieu ouvre cette nouvelle alliance aux païens qui, par la foi en Jésus, peuvent entrer dans l'alliance d'Israël. Ça veut dire cette alliance, comme on le voit, elle est symbolisée aussi dans Romains 11 par l'image de l'olivier. L'olivier, les racines, c'est Israël. Ça veut dire que notre identité chrétienne, nous la tirons d'un autre. Nous la tirons du peuple d'Israël. L'Église n'est pas sans Israël. L'Église n'existe pas sans Israël. Si l'Église se coupe de ses racines qui sont Israël, elle n'a plus d'existence propre. Mais par la foi, dans son amour, Dieu intègre les nations dans cette alliance, il greffe les branches individuelles que nous sommes par la foi sur cet olivier d'Israël. Et ce faisant, l'épouse, ce n'est pas seulement Israël, de fait, c'est aussi l'Église. Parce que, comme disait mon professeur au Nouveau Testament, quand j'étais à Jérusalem, l'Église, disons, le christianisme est une religion juive. Et par conséquent, elle est inséparable, justement, du judaïsme et de cette alliance, de ces alliances qui ont été accomplies entre le Seigneur et Israël. Alors, parfois, on dit, mais alors, qui est l'épouse, c'est Israël ou l'Église? Je réponds, c'est les deux. Alors, on me dit, mais alors, à ce moment-là, quoi? Dieu a deux femmes, il est bigame? Non. Mais ça veut dire que, finalement, dans la perspective éternelle de Dieu, l'Israël et l'Église, c'est une même réalité. Par conséquent, ce qui est vrai pour Israël est vrai pour l'Église. Donc, je reviens ici à ma théophanie du Sinaï. Dieu, donc, épouse Israël au Sinaï, et Dieu est fidèle à son alliance. Il n'aura d'alliance avec aucun autre peuple comme il en aura avec le peuple d'Israël. Malheureusement, Israël, lui, n'aura pas cette fidélité. Et de la même manière qu'une épouse adultère, Israël va aller vers les dieux des nations. Dieux qui sont dénoncés par les prophètes comme étant des amants, comme une femme prostituée à des amants. Eh bien, le peuple d'Israël se prostitue avec les idoles des nations. Et Dieu donc essaye par tous les moyens de ramener son peuple dans ses voies. Et puis, il envoie des prophètes. Et ça ne marche pas. Israël retombe toujours dans ses ornières. Il y a cette passion qu'est Israël pour les dieux étrangers, exactement comme il a la passion d'une femme infidèle pour des amants. Et finalement, Dieu en a assez. Et il dit, bah, puisque c'est comme ça, je vais faire subir à Israël le châtiment des épouses infidèles, à savoir la réputation. Et Dieu, donc, divorce d'Israël. Et le divorce prend la forme de l'exil. L'exil, c'est en quelque sorte Dieu qui répudie Israël. Et ça, vous le lisez notamment dans le livre du prophète Osée. Et quand il a fait ça, Dieu réfléchit, se reprend et dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que les nations vont dire de moi? Que je n'ai pas su garder la fidélité de mon peuple? C'est ma gloire qui est profanée parmi les nations par cette infidélité d'Israël. Et puis, il y a une deuxième raison. J'aime trop Israël pour me résigner à cette répudiation. Je ne peux pas accepter ça. Alors Dieu dit, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais ramener Israël au désert. Désert, nous avons vu tout à l'heure avec Jérémie, qui est le temps idéal des relations entre Israël et son Dieu, qui est un temps de fiançailles. Et là, dit le Seigneur dans Osée, je vais parler à son cœur. On dirait aujourd'hui en langage moderne, je vais lui refaire la cour. Ça veut dire, je vais regagner son amour, je vais reconquérir son amour. Et quand cela aura été fait, eh bien, je traiterai avec elle une nouvelle alliance. Ça veut dire, je vais l'épouser à nouveau. Et à ce moment-là, ce sera quelque chose d'entièrement nouveau, parce que Israël ne sera plus jamais infidèle. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, de ses divinités étrangères, qui en hébreu signifie aussi le mari d'ailleurs. Une femme dira de son mari Baali, mon mari. Et un autre mot. Baal, c'était le nom bien sûr des divinités étrangères vers lesquelles allait le peuple d'Israël. Et le prophète dit, tu ne m'appelleras plus Baali, mon Baal. Mais tu m'appelleras Ishi, ça se dit littéralement mon homme. Et Israël ne sera plus jamais infidèle. Et là, ce sera quelque chose d'entièrement nouveau. Et non seulement les nations seront je serai glorifié aux yeux des nations, mais finalement, ce sera l'accomplissement ultime des desseins de Dieu. Et Dieu ramènera son peuple dans son pays. Justement, après cette rencontre qui sera un véritable remariage. Dieu réépouse Israël après l'avoir exilé et avoir donc divorcé d'elle au moment de cet exil. J'établirai, nous a-t-il dit, avec toi une alliance éternelle. C'est quelque chose de très important parce que nous trouvons là justement ici cette image qui apparaît aussi dans le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, le thème de Pâques est omniprésent. Et c'est en relation aussi avec ce qu'était la période de ces fêtes d'Israël, où la fête de Pâques est la toile de fond, le filigrane de tout le livre de l'Apocalypse et de toute la littérature johannique également. Jean est le seul à nous dire que le ministère de Jésus a duré 3 ans. Et il commence à Pâques, précisément. Il commence à Pâques par le baptême que Jean administre à Jésus quelques jours avant la Pâque, puisque nous voyons que la semaine suivante, après avoir participé aux noces de Cana, Jésus se rend à Jérusalem pour une première fête de Pâques. Et au moment donc où il va être baptisé, Jean le révèle au peuple en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Cette expression, elle fait allusion bien sûr à l'agneau de Pâques. Cet agneau qui avait été sacrifié pour la délivrance du peuple. Et vous vous souvenez comment dans le livre de l'Exode, il nous est dit « Le 10e jour du premier mois, le mois de Nissan, c'est-à-dire le mois de Pâques, chaque famille prendra un agneau mâle d'un an absolument sans défaut. Et cet agneau sera mis à part du reste du troupeau. Ça veut dire qu'il sera sanctifié. Et cet agneau, quand il aura été séparé du reste du troupeau, quand il aura été sanctifié du reste du troupeau, deviendra l'agneau de Dieu. Et quand Jean-Baptiste proclame « Voici l'agneau de Dieu », bien entendu, ses auditeurs juifs comprennent bien qu'il fait allusion à l'agneau de Pâques. Et cet agneau, nous dit le texte de l'Exode, vous le garderez 3 jours. Et 3 jours après, le 14e jour du premier mois, il sera sacrifié. Vous prendrez le sang de l'agneau, vous connaissez la suite. Et donc, je passerai cette nuit-là dans le pays d'Égypte. Et là où je verrai le sang, eh bien, ceux qui seront dans la maison ne seront pas l'objet de la colère de Dieu et les premiers-nés ne seront pas frappés par l'ange de la destruction. Jésus est désigné comme l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui est amené, nous est dit, à porter le péché du monde. Et là, cette expression « porter le péché du monde », ça fait allusion à une autre fête biblique qui est très importante également chez Jean. Deux fêtes qui se correspondent dans le calendrier liturgique juif, Pâques, le premier mois de l'année, et ensuite le 7e mois, c'est-à-dire 6 mois plus tard, vous avez une autre fête essentielle qui est la fête du Kippour, sur laquelle je vais venir dans un instant. Et la fête du Kippour est marquée aussi, c'est ce qu'on appelle la fête des expiations, la fête du pardon des péchés, où il y a aussi un sacrifice important. Si le sacrifice de l'agneau de Pâques est un sacrifice important pour la délivrance, pour la fête de Kippour, c'est un autre animal qui est sacrifié, c'est un bouc. C'est 2 boucs très exactement. 2 boucs sur lesquels on jette le sort. Un bouc est pour l'Éternel et un bouc est pour ce que l'on appelle Azazel. Azazel, c'est le seul endroit où on trouve ce nom dans la Bible. La plupart des commentateurs pensent que c'est un démon, ou même le prince des démons, c'est-à-dire Satan. Et ce bouc qui est désigné pour Azazel, les anciens lui imposent les mains en confessant les péchés d'Israël. Et ensuite, quelqu'un est désigné par le sort, et il prend ce bouc et il l'emmène dans le désert, à Satan, finalement. Ça veut dire que celui qui est à l'origine du péché, Satan, qui est le tentateur, celui qui incite au péché, eh bien, on lui renvoie le colique dont on ne veut pas, retour à l'envoyeur. Le péché, on n'en veut plus. Tu es celui qui est l'instigateur du péché. Allez, on te renvoie ça. Et donc, le bouc en question, il porte le péché du monde. Il porte le péché d'Israël, en tout cas. Après, on viendra dans un instant, et il y a le deuxième bouc qui, lui aussi, est sacrifié cette fois-ci, et son sang est emmené dans le lieu très saint. Mais voyez-vous, quand Jean-Baptiste désigne Jésus comme l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde, il fait allusion à ces deux fêtes. La fête de Pâques, où il y a sacrifice de l'agneau, et la fête de Kippour, où le bouc émissaire porte le péché du monde. Jésus est celui qui porte le péché du monde jusqu'à la croix. Et cette expression aussi, eh bien, plutôt le ministère de Jésus va durer 3 ans. Et l'équation un jour, 3 ans, c'est quelque chose qu'on trouve constamment dans la parole de Dieu. Vous vous souvenez, par exemple, que les espions avaient visité le pays d'Israël pendant 40 jours, ils avaient fait un mauvais rapport. Et en conséquence, Dieu dit, bien, vous allez errer 40 ans dans le désert, un an pour chacun des 40 jours que les espions ont mis pour visiter le pays. Donc, l'agneau de Dieu était conservé pendant 3 jours. De la même manière, l'agneau de Dieu, Jésus, va être mis à part pendant 3 ans, qui vont être justement son ministère. Et le troisième jour, eh bien, l'agneau de Dieu va être immolé, va être sacrifié. Et dans le récit de la Passion selon Jean, il y a de multiples allusions qui sont faites à l'agneau de Dieu d'abord. Jésus est mis à mort et il meurt à la sixième heure, c'est-à-dire midi, c'est-à-dire l'heure où l'on commence à sacrifier les agneaux de Pâques. Ça veut dire que Jésus fait partie de ces agneaux de Pâques. Il est le véritable agneau de Pâques. Ensuite, il nous est dit que Jésus donc demande à boire, il a soif. Et on lui présente une éponge imbibée de vinaigre au bout d'une branche d'hysope. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'il nous est dit que le sang de l'agneau de Pâques devait être badigeonné sur les maisons, sur les portes des maisons, avec une branche d'hysope. L'hysope est la plus petite des plantes qui poussent dans le pays d'Israël. Il nous est dit, par exemple, que Salomon a parlé sur tous les arbres, depuis le cèdre du Liban le plus grand, jusqu'à l'hysope qui pousse dans le creux des rochers le plus petit. Et ce faisant, l'hysope est le symbole de l'humilité. Si le Seigneur demande aux Israélites de badigeonner les portes avec une branche d'hysope, avec le sang de l'agneau, c'est pour leur rappeler que la délivrance, elle n'est pas leur fête, elle est un don de Dieu. Et par conséquent, qu'ils ne doivent pas s'en glorifier, mais qu'ils doivent rester dans l'humilité, même par rapport à la victoire qui va leur être donnée sur les Égyptiens. Et de la même manière, donc, Jésus reçoit cette éponge de vinaigre avec une branche d'hysope qui souligne justement son humilité. Et puis ensuite, il nous est dit que quand Jésus est mort, les soldats romains viennent pour s'assurer qu'il est bien mort. Et alors que pour hâter la mort des condamnés, avant que le Shabbat ne tombe, il fallait que les corps soient descendus de la croix avant la tombée du Shabbat et de Pâques. Alors pour hâter la mort des condamnés, on leur rompait les os des jambes avec une hache. On fait ça pour les deux brigands qui étaient crucifiés avec Jésus. Mais quand ils arrivent à Jésus, ils constatent que Jésus est déjà mort. Et ils ne lui brisèrent pas les jambes, afin que s'accomplisse, dit Jean, ce qui avait été écrit, de l'agneau de Pâques, aucun de ses os ne sera brisé. Et l'interdiction de briser les os de l'agneau de Pâques était une indication de la résurrection, une prophétie de la résurrection. Par conséquent, l'agneau de Dieu, l'agneau de Pâques, devait effectivement ressusciter. Et donc, vous trouvez ça dans le livre de l'Apocalypse, où est présenté l'agneau de Dieu. Au centre du livre de l'Apocalypse, vous avez l'agneau de Dieu. L'agneau qui est en même temps le lion de Juda, qui est en même temps celui qui va remporter la victoire sur toutes les puissances des ténèbres, qui a 7 cornes et 7 yeux, c'est-à-dire la plénitude de l'Esprit de Dieu sur lui, et qui nous renvoie donc ici à cette fête de Pâques, qui est tellement importante dans l'évangile de Jean. Et puis, il y a aussi cette fête de Kippour que j'évoquais, qu'on retrouve aussi dans l'évangile de Jean. Il faut savoir que la fête du Kippour est une fête très importante, je dirais presque la plus importante, dans la liturgie juive jusqu'à ce jour, en ce que elle est l'image du jugement dernier. Elle commence 10 jours auparavant par le son du chauffard. Il y a ce qu'on appelle la fête des chauffards, au cours de laquelle le chauffard est sonné. Et cette fête, le son du chauffard dans la littérature juive, alors le chauffard, vous savez ce que c'est la corne de bélier, que l'on traduit en général par trompette. Ce n'est pas tout à fait juste, parce que quand nous parlons d'une trompette, nous voyons essentiellement une trompette de métal. Dans la Bible, il est aussi question de trompette de métal. Mais c'est un autre mot qui est employé, c'est le mot chatotsra. Là, il est question du chauffard. Le chauffard, c'est forcément une corne de bélier ou une corne de gazelle. Et donc, le son du chauffard est un appel à la repentance. Et pendant le mois qui précède la fête de Kippour, tous les jours, il y a le son du chauffard qui retentit. C'est très typique à Jérusalem quand on est là-bas dans cette période. C'est un appel à la repentance. Il y a des cérémonies spéciales, des temps de prière spéciaux dans la synagogue qu'on appelle les slichot, c'est-à-dire les demandes de pardon. Alors on demande pardon à Dieu, évidemment, pour ses péchés. Mais on demande pardon aussi à ceux que l'on peut avoir offensés dans l'année qui vient de s'écouler. Si l'on a des dettes, par exemple, on profite de cette occasion pour rembourser ses dettes. Si on s'est brouillé avec quelqu'un, on essaie de se réconcilier avec lui. Dans le but d'arriver le jour du Kippour avec une bonne conscience devant Dieu. Parce que Dieu ne peut pardonner les péchés que dans la mesure où l'on s'est véritablement repenti. Et ce faisant, le jour du Kippour est considéré comme une anticipation du jugement dernier. Et la liturgie juive nous dit que chacun doit se présenter devant Dieu le jour du Kippour comme s'il se présentait devant Dieu au jour du dernier jugement. Et donc là, Dieu va donner une sentence, bonne ou mauvaise. Et il est intéressant de noter que pendant le jour du Kippour, du temps où le temple subsistait, il y avait dans la journée de Kippour 7 sonneries du chauffard, et qui étaient les 7 derniers appels à la repentance, les 7 dernières occasions qu'avait le pécheur impénitent de se repentir. Et quand retentissait, et quand retentit encore aujourd'hui, à la fin de cette journée, le dernier chauffard, alors on appelle ça en hébreu la néhila, c'est-à-dire la fermeture. Ça veut dire que c'est un avertissement. Un jour viendra où la porte du pardon, la porte de la grâce sera fermée. Quand aura retenti le dernier chauffard, la possibilité de se repentir ne sera plus possible. Et celui qui ne se sera pas repenti avant que ne retentisse le son du dernier chauffard sera définitivement perdu. Les 10 jours qui précèdent la fête du Kippour sont ce qu'on appelle Yamim Noraim, c'est-à-dire les jours terribles. Des jours où, justement, chacun doit s'examiner, doit faire un examen de conscience pour se présenter devant Dieu. Et là, il nous est dit que dans ces derniers jours, Dieu ouvrira des livres dans le ciel. Des livres où sont inscrits les actions de tous les hommes, bonnes ou mauvaises. Et en fonction, justement, de la repentance ou de l'endurcissement des uns ou des autres par rapport à leur péché, parce que Dieu n'oublie aucun péché, tout est mentionné dans le livre. Et celui qui ne s'est pas repenti de ses péchés, eh bien, les retrouvera au jour du jugement, qui lui reviendront comme un boomerang dans la poitrine. Par conséquent, il est important aussi de se remémorer tous ses péchés, de manière à recevoir dans le livre de vie, au temps de la fin, une bonne signature. Et pendant cette période de l'année, quand on se rencontre dans la rue, on se souhaite de la manière suivante: Tirtemu, vetartemu. Ça veut dire, puissiez-vous avoir une bonne signature dans le livre de vie. Puisse votre nom être scellé et inscrit dans le livre de vie. C'est intéressant de noter que l'on retrouve ça aussi dans le livre de l'Apocalypse. Et lorsque, précisément, le dernier shofar a retenti à la fin du jour de Kippour, alors, en principe, là, il n'y a plus rien à faire. Il faudra attendre le Kippour de l'année suivante pour pouvoir être pardonné, à condition, bien sûr, que d'ici là, Dieu nous ait prêté vie. Et si, d'ici là, eh bien, il devait arriver que nous soyons repris, alors, évidemment, la situation du pécheur pourrait être dramatique. Et le jour du Kippour est un jour extrêmement solennel, un jour de jeûne complet. Tout s'arrête dans le pays, et chacun dans les synagogues, justement, pour faire un bilan de ses péchés. Et c'est très, très impressionnant d'être en Israël pour le jour du Kippour. C'est le seul peuple qui prend un jour, justement, pour se placer devant Dieu et pour faire un examen de conscience, plus ou moins bien selon les uns les autres. C'est évident. Mais en tout cas, il y a cette invitation. Maintenant, revenons à notre livre de l'Apocalypse. Et nous constatons que nous retrouvons aussi cette fête. Il nous est dit, par exemple, que Jean fut enlevé dans le ciel, alors au jour du Seigneur. Indication qui est assez étonnante et qui est souvent très, très mal comprise. C'est un des deux textes sur lesquels on s'appuie pour essayer de démontrer que les apôtres ont changé le jour du repos du samedi au dimanche. Jour du Seigneur se dit en latin dies domini, ce qui signifie littéralement, ce qui se traduit en français par dimanche. Et l'idée, c'est que Jean aurait eu sa vision de l'Apocalypse un dimanche. Après tout, qu'il y ait un dimanche, un lundi ou un mardi, qu'est-ce que ça peut bien nous faire ? En fait, ça n'a rien à voir avec le dimanche. C'est la traduction en grec, Hémeros Kyriou, ça se dit en grec, c'est-à-dire ça correspond à notre jour de l'Éternel que nous avons évoqué tout à l'heure. Ça veut dire, Jean a été enlevé à cette période de temps qui verra justement ce moment des grands jugements de Dieu comme le jour du Kippour en était l'annonce prophétique. Et Jean est enlevé dans un Kippour, le jour du Seigneur. D'ailleurs, en hébreu, Kippour s'appelle Yoma. C'est de l'araméen, mais enfin, c'est la même chose. Le jour. Quand on dit le jour, c'est le jour du Kippour. C'est le jour qui anticipe et qui annonce la venue de ce jour de l'Éternel qui a été annoncé chez les prophètes. Jean va être témoin des grands jugements de Dieu qui auront lieu à la fin. Et il est enlevé dans le ciel, il est enlevé dans le temple céleste. Et là, qu'est-ce qu'il voit ? Un personnage qu'il ne reconnaît pas d'abord, qui est vêtu comme le grand prêtre. Et c'est au bout d'un temps qu'il reconnaît que ce personnage n'est autre que Jésus, le grand prêtre du temple céleste, à la manière de Malchisédek que nous avons évoqué tout à l'heure. Or, ce grand prêtre, nous le voyons ensuite allumer les chandeliers, 7 chandeliers. Il y avait dans le temple, soit dans le premier temple, il y avait 7 chandeliers différents, ensuite il y a eu un seul chandelier à 7 branches, mais que ce soit 7 chandeliers ou le chandelier à 7 branches, c'était toujours les prêtres subalternes qui allumaient les chandeliers le matin. Sauf le jour du Kippour. Le jour du Kippour, ce qui était la tâche des prêtres subalternes en temps normal était la tâche du grand prêtre. Et là, Jean voit le grand prêtre céleste, le Messie, Jésus, qui allume lui-même les chandeliers. Et pour Jean, c'est une manière de nous dire ce que Jean voit dans sa vision, c'est le jour du Kippour. Il est transporté au jour du Kippour, qui est en même temps le jour de Pâques. Les deux jours se télescopent dans le livre de l'Apocalypse. Demain, nous parlerons plus précisément de ce culte qui a lieu dans le ciel et qui évoque justement la fête de Pâques. Ce soir, je voudrais m'arrêter davantage sur le jour du Kippour. Donc Jean voit cette réalité et, chose intéressante, vont s'abattre sur la terre. Je vais voir deux choses. Premièrement, dans le ciel, ça on en parlera plus demain, un culte céleste. Dans le temple céleste, un culte auquel sont associées toutes les créatures, à la fois célestes et aussi terrestres, c'est-à-dire aussi l'Église. Deuxièmement, au moment où s'accomplit ce culte qui annonce le triomphe de l'agneau, qui annonce le triomphe du Seigneur à l'occasion de ce jour de l'Éternel que nous avons évoqué, donc le jour du Kippour, Yoma, le jour, eh bien, se déroule sur la terre un certain nombre de jugements marqués par trois séries de sept fléaux. Maintenant, si vous lisez attentivement la description de ces fléaux, vous allez vous rendre compte qu'ils correspondent exactement aux fléaux qui se sont abattus sur le pays d'Égypte au moment du premier exode. L'eau changée en sang, les ténèbres, les sauterelles, les grenouilles, etc. etc. C'est une manière pour Jean de nous dire que ce temps final, ce temps du jour de l'Éternel qu'ont annoncé les prophètes, est un nouvel exode. Les plaies qui se sont abattues sur le pays d'Égypte avaient pour but de briser l'obstination du Pharaon. Et elles sont allées crescendo jusqu'à ce que le Pharaon craque. Or, nous voyons aussi dans le livre de l'Apocalypse ce crescendo. Ce crescendo qui s'adresse à un autre Pharaon, la bête, la quatrième bête de Daniel que nous avons évoquée tout à l'heure, qui n'est autre que celui que nous appelons l'Antichrist. L'Antichrist, nouveau Pharaon, qui tient le peuple de Dieu, Israël et l'Église, dans l'esclavage, comme le peuple d'Israël était esclave du Pharaon autrefois en Égypte. Et il faut que les fléaux s'abattent sur le trône du Pharaon, sur le pays du Pharaon, pour que la délivrance du peuple de Dieu puisse être effective. Et voyez-vous, chaque fois qu'une plaie s'abattait sur le pays d'Égypte, alors le trône du Pharaon vacillait un peu plus, jusqu'au moment où il s'est absolument effondré. Et de la même manière, les jugements de Dieu, les fléaux qui s'abattent sur la terre, vont être indispensables pour la délivrance du peuple de Dieu, parce que le jugement des méchants est la condition sine qua non de la délivrance des justes. Jésus dira ça dans un autre texte, dans les discours apocalyptiques. Il dit « Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui arrivera, car les puissances des cieux seront ébranlées. » On retrouve ça dans l'Apocalypse. « Mais vous, dit Jésus à ses disciples, quand ces choses commenceront d'arriver, au contraire, réjouissez-vous et redressez votre tête, parce que votre délivrance est proche. » J'évoquerai demain ce que disaient nos frères des premiers siècles quand ils priaient, une prière qui peut nous choquer, mais qui était la leur. « Périsse ce monde et vienne ton royaume. » Ce monde de ténèbres, ce monde de péché doit disparaître, doit périr pour que le royaume de Dieu puisse apparaître et que le royaume de Dieu puisse venir. Vous trouvez ça aussi dans cette parabole du juge unique que j'ai évoqué tout à l'heure, où il nous est dit que précisément la prière de la veuve qui représente le peuple de Dieu, c'est « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Et ce n'est que lorsque le juste jugement de Dieu sera donné que cette veuve qui représente les élus, eh bien, pourra effectivement entrer en possession de tout son héritage. Et par conséquent, alors que sur la terre il y a ces dévastations, dans le ciel, dans le livre de l'Apocalypse, il y a les réjouissances parce que la délivrance du peuple de Dieu est proche. Maintenant, chose également intéressante, nous retrouvons ce qu'est la liturgie du jour du Kippour. Je vous ai dit que dans le temps du Kippour, on sonnait sept fois du shofar. Et en même temps, donc, il y avait ce souhait que j'ai évoqué, que vous puissiez être scellés dans le livre de vie. Et la première série des sept fléaux, c'est un livre scellé qui est décellé et qui, par conséquent, non seulement va déclencher des fléaux, mais aussi explique le fait qu'il y a dans le livre de vie eh bien, le nom des élus qui est écrit. Il y a l'annonce du jugement des méchants, mais il y a aussi l'annonce du salut des justes. Donc nous sommes aussi dans cette perspective du temps de Kippour. Deuxième série de fléaux, sept chauffards. Sept chauffards, et là nous retrouvons les sept chauffards qui étaient sonnés pendant justement le temps, pendant toute la journée du Kippour, au moment où le grand prêtre entrait donc dans le lieu très saint, cette fois-ci avec le sang du deuxième bouc qui était sacrifié et qui était répandu sur l'autel pour être offert au Seigneur. C'était le seul jour de l'année, le jour où quelqu'un, le grand prêtre, seulement avait le droit d'entrer au-delà du voile dans le lieu très saint pour offrir le sacrifice d'expiation. Et lorsqu'il ressortait, il levait les mains et il bénissait le peuple en disant ceci, « Shalom lechem, la paix soit avec vous ». Ça veut dire maintenant que le sacrifice a été accepté par Dieu. Eh bien, vous avez la paix avec Dieu, vous êtes réconciliés avec Dieu. Et ça, vous retrouvons ça aussi, bien sûr, dans le livre de l'Apocalypse. Troisième série de fléaux, les coupes. Ça aussi, c'est tiré du rituel du Kippour, parce que dans le traité Yoma, qui nous explique ce qu'était à l'époque de Jésus le rituel dans le temple jour d'expiation, il y a tout un traité épais comme ça dans la littérature juive qui nous détaille minutieusement tout ce qui se passait pendant le jour du Kippour, c'est dire l'importance qu'avait ce jour et cette fête au sein du peuple d'Israël à cette période. On faisait sur les bases de l'autel sept libations de vin dans sept coupes. Et les derniers fléaux, dans le livre de l'Apocalypse, sont aussi représentés par sept coupes. Sept coupes qui ne sont pas du vin, mais qui représentent les derniers fléaux de la colère de Dieu. L'idée de la colère de Dieu qui bouillonne comme un vin, vous retrouvez ça déjà chez les prophètes, et on retrouve ça aussi dans le livre de l'Apocalypse. Par conséquent, ici, nous sommes bel et bien dans cette fête de Kippour. Et je terminerai en disant que il y a une autre fête aussi qui est évoquée dans le livre de l'Apocalypse, qui est au chapitre 7, une fête qui suit la fête de Kippour cinq jours après. C'est la fête de Soukhot. Soukhot, la fête des tabernacles ou la fête des tentes, c'est aussi une fête qui est en relation avec la venue du Messie. Le Messie qui donc est venu une première fois comme l'agneau de Dieu et comme le bouc expiatoire du Kippour, qui a porté le péché du monde et qui reviendra ensuite dans la gloire. Et la fête de Soukhot, c'est la fête messianique qui annonce le retour du Messie au temps de la fin. C'est la raison pour laquelle, si la fête de Kippour est ce qu'on appelle une fête austère, ça veut dire une fête où on n'a pas tellement envie de se réjouir, au contraire, la fête de Soukhot est une fête joyeuse. Et ordre est donné, tu te réjouiras devant l'Éternel pendant sept jours. Et se réjouir est absolument indispensable pendant cette fête. Et cette fête, elle est marquée par plusieurs obligations. La première, c'est d'habiter sous des tentes, sous des huttes. La deuxième, c'est de célébrer la fête avec des robes blanches. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. À l'époque, ça se faisait bien sûr. Et ce qu'on appelle le loulav, c'est-à-dire essentiellement une branche de palmier, symbole de victoire, symbole aussi de la présence de Dieu. Et trois autres branches moins importantes qu'on appelle les quatre espèces de Soukhot qui sont définies justement dans le chapitre 23 du livre du Lévitique. Et enfin, c'est le temps où l'on prie pour que le Seigneur envoie la pluie. On est ici à la fin de l'été et pendant six mois, il n'est pas tombé une seule goutte d'eau sur la terre. Et la fête de Soukhot est le moment où doivent venir en principe les premières pluies. Premières pluies qui sont comme une résurrection. Les sages ont dit, eh bien, c'est la pluie qui tombe à Soukhot, les premières pluies qu'on appelle moré en hébreu, c'est en quelque sorte comme la résurrection des morts. Le pays a été desséché pendant six mois, il est comme mort, Et quand tombent les premières pluies, très courtes mais très violentes, quelques heures après, eh bien, vous avez le désert qui refleurit d'une manière absolument stupéfiante. Vous avez des fleurs qui sortent du désert, qui sont d'une beauté à vous couper le souffle. Et les rabbins ont dit, le jour de la première pluie, c'est comme le jour de la résurrection des morts. Et voyez-vous, la fête de Soukhot est la fête de ces choses dernières, du triomphe du Messie et de la résurrection des morts. Et dans le chapitre 7 du livre de l'Apocalypse, vous trouvez exactement ça. Ce chapitre 7 est ce qui a été le fond de commerce d'une secte apocalyptique que je ne nommerai pas, où il est question de 144 000 de toutes les tribus d'Israël. 144 000, évidemment, comme c'est souvent le cas dans les livres de l'Apocalypse, c'est un chiffre symbolique. Ce n'est pas à prendre à la lettre. 144 000, c'est 12 fois 12 000, 12. C'est un chiffre symbolique très important dans la Bible, comme 7 d'ailleurs, qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse à de nombreuses reprises. C'est le chiffre de la plénitude. Plénitude d'Israël, c'est-à-dire ce que Paul annonce dans le chapitre 11 de l'Épître aux Romains, que dans les derniers temps, au moment où justement le Messie viendra sur les nuées du ciel, tout Israël le reconnaîtra et tout Israël sera sauvé. Et par conséquent, parler de 144 000 de toutes les tribus d'Israël, c'est évoquer la totalité, la plénitude du peuple d'Israël qui aura cru en Jésus au dernier temps et qui sera sauvé. Et ces 144 000 sont des peints vêtus de robes blanches et portant des palmes à la main. Donc exactement comme on le fait au moment de la fête de Soukhot. Et ensuite, il nous est dit que le Seigneur étendra sa tente au-dessus d'eux, donc Soukhot, la fête des tentes, et il les conduira vers des sources d'eau. Donc ici, le rituel de l'eau, le rituel de la pluie, qui est aussi une des cérémonies importantes qui ont lieu pendant ces 8 jours que dure la fête de Soukhot. Et derrière cette assemblée de ces 144 000, le prophète voit des représentants des nations de toute langue, de toute tribu et du monde entier. Et il y a cette idée dans le judaïsme, vous la trouvez déjà dans le chapitre 14 du livre du prophète Zacharie, qu'au temps de la fin, au moment de la fête de Soukhot finale, eh bien, les nations seront associées au salut d'Israël. Et quand Israël sera sauvé, il y aura des représentants de toutes les nations qui seront sauvés avec le peuple d'Israël et qui célébreront avec Israël la fête de Soukhot. Et la fête de Soukhot, selon ce qui est écrit dans Zacharie, sera une fête qui, pendant le millénium, sera indispensable pour les nations. Si une nation ne monte pas à Jérusalem, nous dit le prophète, pour la fête de Soukhot, la pluie ne tombera pas sur elle. Donc ici, le rituel de la pluie. Et à l'époque de Jésus, le dernier jour de la fête, le grand prêtre offrait sur l'autel 70 taureaux pour chacune des 70 nations qui sont évoquées dans le chapitre 10 du livre de la Genèse et qui, au temps de la fin, seraient amenées justement à se joindre au peuple d'Israël, sauvé et racheté. Et voyez-vous ici, je termine en disant que nous retrouvons ensuite cette nouvelle Jérusalem à la fin du livre de l'Apocalypse, qui est aussi l'épouse, une épouse. Dieu qui s'est réconcilié aussi bien avec Israël qu'avec l'Église et qui maintenant donc s'est à réépouser Israël, comme l'avons vu dans le texte du prophète, à réépouser son peuple. Et il va célébrer pour l'éternité un repas de noces. Je vis descendre, nous dit le prophète, l'épouse du Seigneur, l'ange lui dit, je te montrerai l'épouse de l'agneau. Et il voit cette Jérusalem. Et cette Jérusalem est très intéressante parce qu'elle est composée d'une part des 12 tribus d'Israël, donc le peuple d'Israël, et ensuite des 12 apôtres qui sont associés à chacune des tribus, c'est-à-dire à l'Église. Et là, nous voyons justement ces deux réalités, l'Église et Israël qui sont liées dans cette Jérusalem ultime, cette Jérusalem qui est en même temps l'épouse du Seigneur. Très intéressant de noter qu'à l'époque de Jésus, il y avait cette assimilation qui était faite entre une femme et une ville. Et nous avons une vision apocryphe, évidemment, d'un certain Ezra, qui, après la chute de Jérusalem en 70, aurait eu une vision où il voit une femme en deuil, en train de pleurer sous un palmier. Alors il s'approche d'elle et lui dit « Mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures comme ça ?» Et cette femme lui répond « Parce que je suis veuve, mon mari a été tué et mes enfants sont massacrés, ont été massacrés. Je suis toute seule et c'est une situation terrible, je suis dans la détresse la plus totale. » Et ça lui dit « Écoute, je vais essayer de prier pour toi, pour que le Seigneur intervienne. » Alors il prie pour cette femme. Et pendant qu'il est en train de prier, cette femme se transforme en une ville magnifique. Et il reconnaît Jérusalem. Et il reconnaît, c'est finalement cette prophétie, qu'un jour viendra où cette femme en deuil, qui représente Jérusalem, l'idée d'une femme en deuil pour Jérusalem, on l'a trouvée déjà dans le livre des Lamentations de Jérémie, eh bien, un jour se transformera dans cette cité céleste qui sera la nouvelle terre promise, qui sera en même temps l'épouse de l'agneau pour l'éternité. Et là, s'accomplira justement ce texte que nous avons lu, la Pâque et Kippour, qui seront justement ce temps où, comme le disent les apôtres, ce sera le renouvellement de toutes choses. Et c'est à la fin de ce texte que l'apôtre reçoit cette vision. Eh bien, que celui qui voit, que celui qui entend, que celui qui comprenne ces choses dise « Viens, viens, viens Seigneur Jésus pour établir justement cette Jérusalem nouvelle. Viens alors que tu as été l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, que tu as été le bouc du Kippour qui a fait l'expiation. Maintenant, il reste une dernière étape, la fête de Soukhot, celui où tu reviendras sur l'unité du ciel et où Jérusalem eh bien, descendra du ciel pour épouser son Seigneur, l'époux, donc le Messie, l'époux pour l'éternité. » Voilà, nous allons prier maintenant. Notre Dieu, notre Père, merci pour la promesse que tu nous fais, Seigneur, qu'un jour, eh bien, nous entrerons dans cette Jérusalem céleste si nous sommes fidèles, Seigneur, et si déjà aujourd'hui nous prenons, Seigneur, ces réalités au sérieux. Et, Seigneur, dans ces temps où nous voyons déjà, Seigneur, c'est le début de ces jugements, Seigneur, que tu envoies sur un monde impie, nous voulons, nous aussi, Seigneur, comme tu l'as dit, relever notre tête, ne pas craindre, mais reconnaître que notre délivrance est proche. Et te dire, Seigneur, avec cette pauvre veuve, fais-nous grâce et fais-nous justice de tous ceux qui s'opposent à la venue de ton royaume. Seigneur, que tu puisses hâter ces choses en leur temps, comme tu l'as dit, et que bientôt, Seigneur, tout ton peuple soit rassemblé dans cette Jérusalem céleste, dans ce festin des noces de l'agneau, où nous pourrons nous réjouir pour l'éternité de ces réalités. Au nom de Jésus. Amen.